Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Alors, nous lisons dans Michée 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ensuite, Matthieu 6, les versets 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et la dernière lecture sera dans 2 Pierre, chapitre 1, et versets 2 à 12. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à votre foi à la vertu la science à la tempérance à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Jusqu'ici les textes de la parole de Dieu.
Sans écran, il est impossible de voir ce qu'il y a dans la mémoire de votre ordinateur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de démonter, regardez la mémoire, vous n'y voyez rien, alors que quand vous regardez votre écran, vous voyez tout. Eh bien, de même, le Saint-Esprit est notre écran. Sans lui, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu veut nous enseigner dans sa parole. Nous voulons donc regarder l'écran biblique du Saint-Esprit ce matin. C'est notre désir, hein, c'est que lui nous parle, qu'il me parle, qu'il nous guide ce matin dans sa parole. Il est dit dans Ecclésiaste 7, 14, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. » Et c'est ce que nous faisons dans cette petite série intitulée « Réflexion en ce temps de coronavirus ». Réflexion en ce temps de coronavirus. Plusieurs sujets sont particulièrement mis en avant dans cette période, comme la peur, la relation aux autorités, les décisions à prendre, la santé, la communion dans l'Église, etc. Et voilà pourquoi la première prédication, que nous avons déjà vue ensemble, était intitulée « Que devons-nous craindre ?» Et nous avons parlé de la seule crainte légitime, des sources des craintes illégitimes et des promesses anti-craintes. La deuxième prédication était intitulée « À qui devons-nous obéir ?» Et nous avons parlé des structures d'autorité biblique, que nous sommes toujours appelés à obéir, même si parfois c'est plutôt à une instance supérieure. Et nous avons vu d'ailleurs que Jésus a toujours obéi. Or, Dieu voulant, la quatrième sera intitulée « Que penser des souffrances ?» et la cinquième « Pourquoi rester unis ?» Mais nous voici aujourd'hui dans la troisième prédication que j'intitule « Quelle est notre direction pour nos décisions ?» Quelle est notre direction pour nos décisions, qui devrait nous aider lorsque nous devons prendre ou assumer des décisions. Alors nous verrons quatre questions qui nous aideront à prendre de bonnes directions lorsque nous sommes face à des choix. Voici les quatre questions. La première, c'est quelle est notre identité ? Quelle est notre identité ? Deuxième question, quelle est notre référence ? Quelle est notre référence ? Troisième question, quelles sont nos valeurs ? Et quatrième question, quelles sont nos priorités ? Ce sont nos quatre points pour la prédication. Alors, j'ai choisi de ne pas traiter tous ces sujets de manière approfondie, parce qu'en fait, il faudrait beaucoup plus de temps, mais de les mettre ensemble pour que l'on ait quelques éléments qui nous aident à bien réfléchir lorsque nous devons prendre des décisions. Alors, si vous vous attendez à sortir de cette prédication en sachant exactement quoi décider dans tout ce que vous allez devoir choisir, eh bien, j'aimerais déjà vous décevoir, parce qu'en fait, ce ne sera sûrement pas le cas. Par contre, si vous désirez avoir des outils pour avoir une saine réflexion lorsque vous devez prendre une décision, alors j'espère que par la grâce de Dieu, que ce que nous allons voir ce matin ensemble sera un réel soutien, une réelle aide dans votre cheminement, dans notre cheminement. J'écoute en même temps que vous. Alors commençons par quelle est notre identité ? Bien souvent, lorsque nous oublions notre identité, nous ne saurons pas d'où nous venons, où nous allons. Nous allons souvent nous méprendre, faire fausse route, avoir peur, ou même nous égarer à bien des endroits. Et là, c'est vrai que l'apôtre Paul souligne bien des éléments, l'apôtre Pierre, pardon, dans 2 Pierre 1, les versets 2 à 12. Je vais les relire, parce qu'on va reprendre quelques éléments de ce texte. « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance, la piété, la fraternité, et à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent entre vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. En lien avec notre identité, j'aimerais souligner deux choses qui influencent grandement notre direction dans la prise de décision. La première, c'est avons-nous une identité en Christ ou pas? C'est la première question. Avons-nous une identité en Christ ou pas? Et deuxièmement, les circonstances modifient-elles notre identité ou pas? Avons-nous une identité en Christ ou pas? C'est en Christ que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie qui honore Dieu. Vous pouvez relire toute l'épître aux Éphésiens qui ne fait que le répéter depuis le début. En Christ, en Christ, en Christ. Et Pierre parle de sa divine puissance pour nous parler de notre attachement à Christ, que Jésus illustre d'ailleurs de Jean 15 avec le sarment et le cèpe. Les efforts pour vivre la foi chrétienne, selon ce qui est écrit dans 2 Pierre, dépendent de notre identité en Christ ou de notre non-oubli de cette identité. Au verset 9, Pierre dit « Mais celui qui ne les possède pas, donc tous les efforts pour vivre une vie chrétienne parce que nous avons l'identité en Christ, est aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Autrement dit, il a oublié son identité en Christ. En fait, celui qui est uni avec Christ va chercher ce qui plaît à Christ. Sinon, comment pourrait-il dire qu'il est uni à Christ? Je suis uni à Christ, mais je cherche des choses qui lui plaisent pas. Celui qui est uni à Christ ne va pas s'unir avec ce qui est contre Christ ou qui ne connaît pas le Christ. Sinon, comment pourrait-il dire qu'il est uni à Christ? Ou dit autrement, comment Christ resterait-il uni à celui qui s'unit avec ce qui lui déplaît? Oula, vous avez suivi? Bon, je l'ai redis. Comment Christ resterait-il uni à celui qui s'unit à ce qui lui déplaît. Notre identité en Christ va nous pousser, lorsque nous cherchons la direction à prendre, à demander si Christ peut être uni à ce que nous allons faire, vivre ou expérimenter. Voilà un premier élément qu'on peut prendre avec nous. Quand on doit prendre une décision, est-ce que ce que je vais faire, dire ou expérimenter, est-ce que Christ peut être uni avec moi dans cette vie? Celui qui n'a pas Christ n'a pas cette question à se poser. Il est perdu. Et le jugement repose sur lui. Et chacune de ses actions va augmenter la juste colère qui s'accumule sur lui, selon Romains 2, 5. Donc là, mais repentons-nous si nous sommes dans cette situation-là. Repentez-vous. Et croyez que Christ a payé pour être sauvé, pour être libéré, et nous réjouir d'être unis à lui. En fait, tout ce que Christ aime est bon. Pour prendre des décisions, nous devons donc nous demander si nous sommes en Christ ou pas, et si oui, est-ce que ce que nous allons faire ou vivre manifeste cette unité? Parlons maintenant un peu des circonstances. Les circonstances modifient-elles notre identité ou pas? Est-ce que le fait que quelqu'un fasse un test PCR nasal est plus en Christ que celui qui ne le fait pas? Ou inversement? Est-ce que celui qui se fait vacciner pour le bien de la planète est moins en Christ que celui qui résiste à l'attrait du vaccin qui est promu par des promesses de bien-être physique, social? Ou inversement? J'aimerais que chacun se pose réellement la question pour lui-même face à ses frères et sœurs dans la foi. Mon identité est-elle modifiée par les circonstances? Est-ce que je deviens plus ou moins enfant de Christ en vivant cela ou ne pas vivant cela? L'identité de mon frère ou de ma sœur en Christ est-elle modifiée par les circonstances? J'espère que la réponse est claire. Non. Les circonstances ne changent pas l'identité. Le fils prodigue était autant fils lorsqu'il était loin de la maison que lorsqu'il est revenu. Les circonstances vont peut-être montrer si nous vivons notre identité ou pas, mais ne la changent pas. Notre identité ne se trouve pas dans ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, mais dans ce que nous sommes en Christ. Petite parenthèse, dans ce temps, puisqu'on est un petit peu dans cette situation de corona qui nous fait réfléchir à tout cela, j'aimerais nous encourager avec grande force à nous écarter de tout mépris pour des personnes qui ont un autre avis que nous ou qui ont une autre façon d'agir que nous. Dès qu'un mépris, donc nous, je dis pas nous dans le sens qu'on a tous le même avis, dans le sens de chacun son avis. Parce que dès que le mépris arrive, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui nous motive? Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour prendre des décisions, nous devons revenir à notre identité, et les circonstances doivent ensuite montrer que nous cherchons à vivre cette identité. Mais nous ne devons pas confondre les circonstances avec l'identité. Après avoir parlé d'identité, parlons de notre référence. Afin de saisir un peu l'important de ce point, nous allons voir trois contrastes. Le premier, c'est la parole de Dieu ou la parole des hommes. Deuxième contraste, ce que Dieu aime ou ce que la société encourage. Et troisième contraste, la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. Alors premièrement, la parole de Dieu ou la parole des hommes. Celui qui a pour référence la parole de Dieu cherchera dans la Bible des outils qui l'aideront à prendre des décisions. Il est clair que pour lui, la Bible a toujours raison, même si ce n'est pas populaire, même si ça ne lui plaît pas. Celui qui a pour référence la parole des hommes cherchera tous les avis possibles et se rendra compte dans notre ère des médias qui donne accès à l'avis du monde entier que cela devient de plus en plus difficile, voire impossible, à trouver un avis commun. Le fondement est mouvant, il change, car l'homme change. Par exemple, la censure dont il y a 50 ans et la censure actuelle n'est plus la même. Ça change. Les références changent. Alors que Dieu et la parole de Dieu n'a pas changé et ne changera pas. S'appuyer sur la parole de Dieu pour nos décisions donne une stabilité sur la vérité qui ne change pas. S'appuyer sur la parole de Dieu pour nos décisions donne une stabilité sur la vérité qui ne change pas. Deuxième contraste, ce que Dieu aime ou ce que la société encourage. La Bible est assez claire sur le sujet dans 1 Jean, que nous avons étudié par le passé dans l'Église. Il est dit dans 1 Jean 2, 15, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Après, c'est quoi le monde? Eh bien, c'est la suite. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais du monde. » Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La société encourage ce que le monde aime. Le monde aime la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui sont en opposition à Dieu. Et ces éléments-là ne devraient pas nous motiver à prendre des décisions. L'orgueil de la vie produit le mépris, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Si nos décisions mènent à un mépris contre celui qui ne fait pas comme nous, on devrait peut-être se poser la question si ce n'est pas l'orgueil de la vie qui nous y pousse. Dans Michée 6:8, nous avons ce que Dieu aime. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer le droit, aimer la loyauté, marcher humblement avec son Dieu. En fait, se demander ce que Dieu aime avant de prendre une décision va nous aider à prendre la bonne décision. Je vous ai dit au début de la prédication, on n'aura pas la réponse à toutes les questions auxquelles on doit répondre, mais on aura des directions qui vont nous aider à y répondre. Se demander ce que Dieu aime lorsque nous devons prendre une décision va nous aider à prendre une bonne direction. Troisième contraste, la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. En fait, en réfléchissant, je me suis dit que, puis en voyant ce que la parole nous enseigne, nous avons tous été créés avec une notion de crainte. C'est normal, ça fait partie de notre création. Même si beaucoup cherchent à l'étouffer, tout le monde agit en fonction de la crainte de son Dieu, en fait. Ou pour le dire autrement, chacun vit pour faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être lui-même, les autres ou Dieu. Chacun vit pour ne pas décevoir. Chacun vit pour un royaume. Et il n'est pas possible de vivre pour deux royaumes en même temps. Et en ces temps d'Eurofoot, c'est très facile à comprendre qu'un joueur ne peut pas jouer dans deux équipes différentes en même temps. Le livre des Proverbes qui nous permet de comprendre ce qu'est la sagesse est clair. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9:10. Donc pour prendre nos décisions, il est utile et important de se demander quelle crainte nous pousse, à qui nous voulons plaire. et pour quel royaume nous voulons vivre. Lorsque nous prenons des décisions, il est utile et important de se demander quelle crainte nous pousse, à qui nous voulons plaire et pour quel royaume nous voulons vivre. Alors j'espère que nous avons pu comprendre par ces quelques mots l'importance de connaître notre référence. Notre référence qui est Dieu. Dans les trois contrastes que nous avons vus, c'est chaque fois Dieu, la référence que nous voulons suivre. Et nous voulons tenir à ces références dans nos décisions. Parlons maintenant des valeurs, qui sont une part importante de nos prises de décision, que nos décisions reflètent. Quelles sont nos valeurs? Waouh, quand j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais comment je vais faire pour ne pas faire trop long? Ben ouais, les valeurs, franchement, c'est juste énorme. Eh bien, je me suis dit, mais dans la parole, on a quand même ces 10 commandements qui nous permettent d'avoir des points de référence, que Christ nous encourage à vivre aussi, que vous trouvez dans Exode 20, Deutéronome 5, que Christ a encouragé, qu'il a vécu, et qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc je vais simplement les prendre en réfléchissant à qu'est-ce que ça signifie en fait pour les valeurs que nous avons. Ben, le premier, c'est un seul Dieu. À quoi pensez-vous en premier lorsque vous vous réveillez le matin? Ou lorsque vous devez prendre une décision importante? Vous êtes face à une décision importante, quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Nos pensées sont souvent marquées par les idoles de nos cœurs. Il y en a de très connues dans notre monde actuel. Je vous en citer une ou deux. La santé. Je ferai tout pour ne pas être malade, même tuer s'il le faut. La liberté. Ou pas forcément tuer moi-même, laisser tuer d'autres, évidemment. Deuxièmement, la liberté, une autre idole du cœur. Je ferai tout pour faire ce que je veux. Ou l'idole du contrôle. Je ferai tout pour contrôler ce qui entre dans mon corps ou ce qui se passe dans le monde. Etc. À quoi pensez-vous en premier lorsque vous vous réveillez le matin? Pour prendre une bonne direction, il est important de bien vérifier que nous voulons servir que le seul vrai Dieu. Deuxièmement, pas d'image et se prosterner. Bon. Combien de temps passez-vous à regarder, parce que c'est la notion du regard aussi ici, les nouvelles de la situation sanitaire? Combien de temps devant ceux qui font la promotion de la santé chimique ou devant ceux qui amènent des alternatives ou encore condamnent tout le monde? Combien de temps regardons-nous ce qui nous fait grandir avec Dieu? Ah tiens, c'est vrai, on en parlait l'autre soir. J'avais vu un gars qui disait dans une citation, si tu regardes pendant une heure, c'est quoi, Netflix, c'était ça, comme tu auras beaucoup de mensonges, il faut que tu prennes une heure pour lire la parole, pour que tu aies beaucoup de vérité. Intéressant. Pour prendre une bonne direction, il est important de regarder à Dieu et se prosterner devant lui seul. Ma décision ne doit pas manifester une prosternation devant quoi que ce soit d'autre. Troisièmement, pas le nom de Dieu en vain. Tiens, utiliser les paroles de Dieu pour faire passer ses idées. Vous saviez que ça, c'était prendre le nom de Dieu en vain? Aimez-vous les uns les autres? Jean 16, 35, donc faites-vous vacciner. C'est prendre la parole de Dieu en vain. Ou bien, si quelqu'un reçoit la marque de la bête, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Apocalypse 14, ne vous faites pas vacciner. C'est aussi prendre la parole de Dieu en vain. Pour prendre une bonne direction, nous ne devons pas nous faire manipuler par une parole de Dieu prise en vain. Donc c'est-à-dire pour un autre royaume que pour celui de Dieu. On est dans les valeurs, on est dans les 10 commandements, c'est le 3e là. 4e, jour du Seigneur. Est-ce que je dois me rendre à l'église pour l'adorer le dimanche? Mais le 4e commandement nous indique clairement que ce jour appartient à Dieu. Que nous sommes appelés à nous reposer de notre travail par la foi et à nous rassembler pour adorer Dieu à qui appartient ce jour. Bien sûr, vous allez me dire, mais tous les jours appartiennent à Dieu. C'est vrai, le chrétien, il est esclave de Dieu, il est son sacrifice vivant. D'accord. Alors, manifester concrètement en prenant encore plus de temps pour Dieu un jour par semaine, en délaissant son travail des 6 jours, est-ce que ça ne serait pas manifester clairement son attachement au Seigneur? Aucune restriction ordonnée par des hommes ne devrait nous arrêter pour rendre un culte au Dieu à qui nous appartenons. Pour prendre une bonne direction, nous sommes conscients que tous les jours de notre vie appartiennent à Dieu, et un jour lui est particulièrement consacré par cela. Hein, pour prendre une bonne direction, nous sommes conscients que tous les jours de notre vie appartiennent à Dieu, et un jour lui est particulièrement consacré. Ensuite, cinquième élément, donc l'honneur aux parents, hein, nos décisions face aux autorités, lorsque nous sommes en Christ, sont motivées par l'honneur que notre Seigneur a donné à son Père. Pour prendre une bonne direction, nous nous soumettons à l'autorité qui est juste au-dessus de nous, sauf si cela nous amène à désobéir à une autorité supérieure, évidemment. Mais généralement, on va à la fin de la phrase, on ne fait pas le début. Pour prendre une bonne direction, nous nous soumettons à l'autorité qui est juste au-dessus de nous, sauf si cela nous amène à désobéir à une autorité supérieure. Sixième élément, la vie est donnée et reprise par Dieu. Toute intervention qui touche à la vie humaine devrait nous répugner. Tellement nous répugner. Chaque fois qu'on touche à la vie, ça doit nous répugner. Parce que nous aimons la vie que Dieu donne. Pour prendre une bonne direction, les conséquences de notre décision ne doivent en aucun cas attenter à la vie d'autrui. Pour prendre une bonne direction, les conséquences de notre décision ne doivent en aucun cas attenter à la vie d'autrui. Septième valeur, Dieu a institué le mariage comme cadre pour une sexualité qui sera vécue de manière respectueuse par le don de soi, qui n'est pas demandé mais vécu. Souvent, dans le couple, don de soi, et tu dois te donner. Le don de soi, c'est je me donne, c'est pas je demande à l'autre. Pour prendre une bonne direction, éloignons-nous de tout ce qui peut souiller, tordre, corrompre ou déformer ce que Dieu a voulu pour la sexualité. Hein, pour prendre une bonne direction, éloignons-nous de tout ce qui peut souiller, tordre, corrompre ou déformer ce que Dieu a voulu pour la sexualité, que ce soit en réel ou en virtuel, sachant également que notre identité n'est pas fondée sur la sexualité. Huitième valeur, mes décisions portent-elles préjudice au bien des autres? Cela leur coûte-t-il quelque chose d'injuste? C'est le vol. Hein? Les richesses sont-elles réparties ou accumulées? Pour prendre une bonne décision ou une bonne direction, veillons à ce que nos décisions ne lèsent personne injustement. Veillons à ce que nos décisions ne lèsent personne injustement. Neuvième valeur, nous cherchons à transmettre ce qui est vrai. Alors la période que nous traversons nous indique que bien des personnes ne vivent plus cette valeur, car ils peuvent dire tout et son contraire avec la même assurance, sans même faire de correction. Mes décisions sont-elles remplies de vérité? Cherchent-elles à ce que la vérité soit élevée? Pour prendre une bonne direction, veillons à vivre dans la vérité. Pour prendre une bonne direction, veillons à vivre dans la vérité. Et dixième valeur, la situation du Covid nous a permis de voir tant de convoitises. Parce que tout le monde ne peut plus faire les mêmes choses au même prix. On est là actuellement. Et tout à coup, on commence à voir les convoitises qui sont en nous, de ce qu'on aimerait faire. Mes décisions sont-elles motivées par la convoitise ou baignées par le contentement? Pour prendre une bonne direction, rappelons-nous que ce n'est pas ce que nous pouvons obtenir par les hommes qui nous donne un contentement durable. Ce n'est pas ce que nous pouvons obtenir par les hommes qui nous donne un contentement durable. Or, notre motivation à vivre ces valeurs dans ces 10 commandements est en Christ, c'est en lui que nous allons vivre tout cela, hein, en qui nous avons tout pleinement, que ce soit le respect, l'intimité, la richesse, la réputation, le contentement, nous avons tout cela en lui. Voilà pourquoi nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes. Et ce sont nos motivations, nos valeurs pour aller dans la bonne direction lorsque nous devons prendre des décisions. Et j'aimerais terminer par la dernière question. Quelles sont nos priorités? Parce que on est parfois devant des situations qui sont bonnes, les deux ou les trois. Quelles sont nos priorités? Parfois, par rapport à notre identité, il n'y a pas de souci. par rapport à nos valeurs, il n'y a pas de souci, enfin, etc., vous comprenez. Et voici que nous allons voir ensemble de nouveau des contrastes, comme on l'a vu tout à l'heure, pour nous aider un petit peu. Premier contraste, prêt au sacrifice ou recherche de privilèges, pour nous aider à mettre les priorités. Deuxième contraste, ce qui est invisible ou ce qui est visible. Ce qui est invisible ou ce qui est visible. Troisième contraste, le royaume de Dieu ou un autre royaume. Le royaume de Dieu ou un autre royaume. Et quatrième contraste, une vision éternelle ou une vision à court terme. Alors le premier, prêt au sacrifice ou recherche de privilèges. Alors nous les chrétiens, nous lisons Romains 12, 1 très facilement. Enfin je sais pas vous, mais voilà, on lit ce texte. Hein. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, alléluia, c'est génial, vivons cela. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais nous laisser une question. Quelqu'un qui me regarde attentivement vivre, peut-il dire que je me sacrifie pour Dieu, sachant que Dieu m'aime? Quelqu'un qui me regarde attentivement vivre, peut-il dire que je me sacrifie pour Dieu, sachant qu'il m'aime? Jésus, le charpentier, l'a parfaitement fait. Ce qui est visible ou ce qui est invisible? Est-ce que je cherche premièrement la guérison, la protection physique ou la transformation et la protection spirituelle? Qu'est-ce que je cherche premièrement? Je parle de priorité. Je dis pas que ce qu'on ne fait pas en premier, c'est mauvais. Avant de faire une grande publicité pour ce qui peut nous protéger du Covid, et cela, quelle que soit votre position dans ce sujet, est-ce que je parle du salut éternel? Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que j'ai déjà annoncé l'évangile aux personnes à qui j'encourage d'utiliser telle ou telle chose par rapport à cette situation sanitaire? Si je n'ai jamais parlé clairement de l'évangile à cette personne, je mets en priorité ce qui est visible. Pourquoi lorsqu'on nous pose la question sur la manière de traiter le Covid, nous ne commencerions pas par parler d'abord du remède contre le mal le plus mortel? On parle de priorité. Pourquoi lorsque quelqu'un nous pose la question sur la manière de traiter le Covid, nous ne commencerions pas par parler d'abord du remède contre le mal le plus mortel? La Bible nous dit clairement, ainsi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées. Notre vie ici-bas est momentanée, plus ou moins longue, mais elle est momentanée, alors que les invisibles sont éternels. Troisième contraste, le royaume de Dieu ou un autre royaume? Est-ce que notre énergie est mise pour construire le royaume de Dieu ou pour le royaume de la santé ou du bien-être ou de la liberté de faire ce que je veux quand je veux ou de la résistance à ce que je considère comme dangereux ou etc. Qu'est-ce que j'ai fait cette dernière semaine qui indique que ma priorité c'est le royaume de Dieu et pas un autre royaume? Qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines qui indique que ma priorité c'est le royaume de Dieu et pas un autre royaume? En fait, toutes nos décisions vont démontrer, vont manifester à quel royaume nous mettons notre priorité. Je parle de priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça n'empêche pas les différentes choses. On parle de priorité. Et dernier contraste, vision éternelle ou vision à court terme? Cherchons-nous simplement à être tranquilles pour les prochaines semaines ou éventuellement les prochains mois, ou est-ce que nous avons une perspective plus longue jusque dans l'éternité? La direction que nous prenons dans notre décision est complètement liée à cette question du court ou du long terme. Complètement. La direction que nous prenons dans nos décisions est complètement liée à cette question du court ou du long terme. Alors en arrivant maintenant à la fin de cette prédication, j'aimerais nous rappeler les quatre questions utiles pour savoir dans quelle direction aller. Quelle est notre identité? Quelle est notre référence? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos priorités? Et vous aurez compris, en fait, que la situation du coronavirus, c'est simplement un révélateur. Ça me permet de parler de ce sujet-là. Mais c'est pour toutes les décisions, c'est évident. C'est pour toutes les décisions que nous prenons, qui concernent toute notre vie. Quelle est notre identité? Quelles sont nos références? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos priorités? C'est important de réfléchir à ça avant de prendre des décisions. C'est l'Ecclésiaste qui nous a poussé à réfléchir. On a vu au début, au jour du malheur, réfléchi. Et c'est aussi l'Ecclésiaste qui nous donne une conclusion, qui dit « Écoutons la conclusion de tout le discours, Ecclésiaste 12. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. » Jésus-Christ est notre identité. Il est notre référence. Il a vécu nos valeurs et il est notre priorité. Alors rappelons-nous, lorsque nous sommes là, appelés à prendre une décision, de ces quatre éléments: identité, référence, valeur, priorité. Et c'est là qu'on comprend maintenant, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que ta parole nous donne des fondements, nous guide, nous permet de nous rappeler que tu nous donnes une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu nous permets de comprendre que les choses que l'on veut nous faire croire dans notre culture qui affectent notre identité, ce n'est pas vrai. C'est toi qui nous donnes l'identité. Et ce n'est pas une action que nous ferions ou pas qui va changer le fait que nous sommes tes enfants. C'est rassurant. Nous voulons te dire merci. Te prions, Seigneur, de nous aider aussi à voir que tu es ce Dieu qui nous donne des références. C'est vrai que nous aimerions avoir certaines réponses très claires et précises dans ta parole par rapport à ce que nous vivons, mais en même temps, tu désires que nous venions vers toi, que nous cherchions ta face, que nous passions beaucoup de temps avec toi, pour être imprégnés de toi et ne plus être dans des situations où nous sommes tellement peu sûrs de ce que nous pouvons faire dans notre vie, où nous n'avons aucune conviction. Oh Seigneur, donne-nous de revenir aux références, afin d'être paisibles et d'être capables de voir qu'on peut faire deux choses différentes dans notre vie ici-bas et pleinement être accepté par toi. C'est rassurant. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette grâce. Merci, Père, parce que tu nous donnes des valeurs qui ne bougent pas, les tiennes ne changent pas. Nous voyons que notre société va dans bien des directions où on change le bien en mal et le mal en bien. Mais toi, tu ne changes pas. C'est tellement rassurant de savoir que tu es ce Dieu qui ne va pas un jour dire une valeur et le lendemain la changer. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu as mis la priorité dans l'histoire de l'humanité à la rédemption que tu as accomplie en Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés. C'est ta gloire qui est manifestée par la priorité que tu mets. Et Seigneur, j'aimerais te prier de nous aider à la saisir. Et c'est tellement rassurant de savoir que toi, tu mets toujours les bonnes priorités. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.